La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, deuxième jour de notre série consacrée à l'écrivaine Françoise Quarez, alias Françoise Sagan. Une semaine débutée hier par une rencontre avec Annick Jay qui nous a parlé de sa vie avec Sagan au début des années 80 et nous a offert un portrait intime de l'auteur de La Chamade. Jeudi, ce sera une émission double avec une première partie sur l'année 54 qui a vu le charmant petit monstre débarquer dans le monde des lettres, suivi d'une partie consacrée à Sagan et Paris. Demain, nous serons avec la jeune universitaire Céline Romadova et aujourd'hui... Aujourd'hui, une autre universitaire, car depuis les nombreuses rééditions de ses livres impulsées par son fils, Denis Westhoff, Sagan a finalement droit de cité à l'université. Et justement, mon invitée d'aujourd'hui est docteur en littérature française à l'université de Columbia à New York. Elle est l'auteur d'articles sur la littérature de la Renaissance et a aussi publié Françoise Sagan, La générosité du regard, un livre qui paraît ces jours-ci chez Classique Garnier. Elle s'appelle Ève Alice Roustan. Bienvenue à tous. Voici la compagnie des auteurs.
On a parlé d'une Sagan un peu le témoin de sa jeunesse, enfin d'une certaine jeunesse. Est-ce que vous aimez ça, témoin de certaine jeunesse?
Non, j'aimais le témoin de personne.
Même pour les premiers romans?
Non, j'avais de la vie, j'ai jamais été témoin de rien, j'ai été témoin de ma propre vie, j'ai pas été témoin de celle des autres.
On a dit aussi moraliste. Alors je pensais que c'était un mot qui devait vous faire fuir, ça, moraliste.
Non, pas tellement. Enfin, plus tellement. Ça me faisait fuir au début, à la mesure où ça incluait que j'avais des petites phrases de moraliste, vous voyez. Nanana, puis pose comment une petite phrase abstraite.
C'est ça, oui. On la sortait vite, on la plaçait, on disait voilà, elle a dit que...
Elle a dit que l'auteur était roux, par exemple. Mais maintenant, je ne suis pas fâchée, parce que je trouve que cette époque n'est pas immorale ni amorale, ça veut rien dire. Mais les choses qui me gênent tellement par moments, que l'idée d'être considéré quelqu'un de moral ne me déplaît plus.
Bonjour Ève Alice Roustan.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors, c'est une moraliste, Françoise Sagan?
Absolument, oui. Si moraliste, ça veut dire étudier les mœurs, étudier les hommes, Sagan est absolument une moraliste. On s'en rend compte très vite quand on lit ses romans, qui sont truffés de petites phrases, de maximes sur le caractère des personnages, le caractère de l'humanité. Oui, bon, Sagan moraliste, absolument.
Mais c'est pas faire la morale?
Absolument pas faire la morale. Non, non, ça elle s'en garde bien. Depuis Bonjour Tristesse, elle ne peut plus vraiment faire la morale. Elle avait d'ailleurs été taxée d'immoralité. C'est amusant d'ailleurs parce que ce qu'on lui a reproché en 1954, c'est d'avoir raconté l'histoire d'une jeune fille qui prend du plaisir sexuel sans tomber enceinte, et ça, c'est immoral. Et moi, relisant ce roman à 20 ans, à 30 ans et plus tard, je trouve que ce qui est immoral, c'est que c'est cette jeune fille qui manipule les autres pour arriver à ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est garder sa vie tranquille avec son père et exclure une épouse de son père. C'est plutôt ça qui est choquant, plus que la sexualité libérée de la jeune fille.
Donc vous pensez qu'on est parti sur un malentendu avec Sagan ?
Oh, je ne sais pas si c'est un malentendu. Ce n'est pas un malentendu puisqu'elle a eu du succès et qu'il lui a assuré aussi le succès de la suite. Mais c'est intéressant, c'est un grand roman parce qu'on le relit et on trouve toujours autre chose. On finit de le lire, on se dit mais... Qu'est-ce qui s'est passé là? Il faut le relire à nouveau pour comprendre cette double lecture possible. Et...
Alors votre livre qui paraît ce mois-ci entend justement prendre au sérieux une littérature jusque-là plutôt dénigrée sur laquelle on a souhaité coller tout un tas d'étiquettes. Alors bon, moraliste, toute une étiquette qui lui convenait, on vient de l'entendre, témoin d'une génération. Et vous avez voulu aller un petit peu plus loin que tout ça.
Oui, j'ai voulu la replacer dans le contexte littéraire de son temps, le nouveau roman, les hussards, et puis aussi dans un contexte beaucoup plus général qui est celui de la littérature française. Sagan est quelqu'un qui porte un héritage français, qui prend en charge la littérature française du passé, les grands auteurs classiques. Et ça, pour le lecteur qui, lui aussi, a lu ses auteurs, c'est une source de grand plaisir de lecture. Et puis, c'est une caractéristique qui la met dans la, disons, pas au niveau de Proust, mais enfin, qui la met dans cette cour des grands écrivains de la littérature française.
Et vous avez écrit votre thèse à Columbia, aux États-Unis.
Oui.
Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce que Columbia me payait pendant que j'écrivais ma thèse, tandis qu'en France, j'aurais dû enseigner au lycée et ça aurait été très difficile.
Oui, mais ça veut dire qu'aux États-Unis, on s'intéresse à Françoise Sagan ?
Oui, on s'intéresse plus à Françoise Sagan qu'en France. En tout cas, jusqu'à présent, les universitaires américains se sont intéressés à Françoise Sagan d'une manière pas toujours la plus heureuse, à mon avis, puisque c'est souvent pour l'associer au mouvement féministe. Certainement, on peut parler de ça, mais je pense pas que. Je pense qu'au contraire, ça a peut-être continué à ne pas la faire prendre au sérieux, de la mettre avec ses écrivaines féministes. Il y a beaucoup d'autres dimensions, au moins aussi intéressantes.
Et alors, on la lit aujourd'hui aux États-Unis ?
Est-ce qu'on la lit aujourd'hui ? En tout cas, quand je parle de Sagan, je dis bonjour tristesse. Ah oui, tout le monde a lu bonjour tristesse.
Oui, mais c'est une autre France, justement. C'est peut-être ça qu'on aime vue de New York, c'est cette France-là, cette France des années 60, 70.
De New York et d'autres pays, oui, cette France-là, oui, qu'on se plaît toujours à imaginer aujourd'hui, certainement, oui.
Et vous vous intéressez par ailleurs à la littérature de la Renaissance.
Oui, alors ça, j'ai fait ma thèse sur la littérature de la Renaissance. Et puis un jour, j'ai décidé de faire quelque chose pour m'amuser. Et je me suis attaquée à Sagan.
Mais il y a des liens ?
Est-ce qu'il y a des liens ? Il y aurait des liens entre Sagan et Montaigne, le côté moraliste, justement. Le côté « je ne juge pas ».
Mais pas plus.
Montaigne, c'est un. Il donne un héritage à toute la littérature française après. Donc si, on pourrait creuser dans cette direction.
Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste, que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie, énervante et douce, et me sépare des autres.
Alors parlons de Bonjour Tristesse et parlons de ce que ce livre recèle d'héritage des livres qui l'ont précédé. Vous dites que pour vous, c'est le roman parfait du XXe siècle, comme ce fut le cas pour La Princesse de Clèves au XVIIe, pour Les Liaisons Dangereuses au XVIIIe et pour Adolphe au XIXe.
Oui, c'était une manière de faire une entrée fracassante dans mon livre. Je suppose qu'on pourrait entrer en bataille avec cette déclaration.
Non, mais qu'est-ce que vous vouliez dire quand même ?
Eh bien, c'est un petit livre, comme Adolphe d'ailleurs, ou La Princesse de Clèves, qui ne sont pas des livres très longs, qui commencent avec ce début magnifique, et ce début qui, on pourrait dire que c'est une ouverture musicale, au sens où cela donne les thèmes. Tout de suite, le titre est expliqué, et le thème de la tristesse qui va être développé et qu'on comprendra finalement dans les dernières pages du roman est mise en place. Donc, en ce sens, c'est un roman classique français. Et puis ensuite, il y a, comme dans beaucoup d'autres romans de Sagan, il y a des citations, des allusions à des auteurs français tout au long du roman. Ça, c'est pas particulier à Bonjour Tristesse. On le retrouve dans beaucoup de romans.
Et qu'est-ce qui fait son importance, selon vous, à ce livre-là en particulier ?
Il y a Le livre s'ouvre de manière moraliste presque, avec une déclaration sur la tristesse qui est une analyse du caractère de l'héroïne qui est aussi la narratrice. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas de la part d'une jeune fille de 17 ans, Cécile, l'héroïne qui raconte à 17 ans.
Donc c'est le rapport de la personne qui écrit, de son âge, avec ce qu'elle dit qui en fait l'importance ?
Ça c'était une des raisons qui font que ce livre est si beau et si marquant, oui. Ensuite, l'importance, je crois que c'est lié à l'histoire de cette jeune fille qui, d'une part, découvre le plaisir sexuel sans aucune culpabilité ni anxiété. C'est ça aussi qui est un peu incroyable en 1954 qu'une jeune fille ait des relations sexuelles avec un garçon auquel elle n'est pas fiancée et sans aucune crainte d'être enceinte. D'ailleurs, sa future belle-mère lui dit « Attention, tu vas gâcher ta vie ». Mais non, Cécile n'est pas puni. Il y a comme un bonheur de vivre, une joie de vivre, un goût du plaisir, sans aucune culpabilité. C'est ça qui est très marquant. Je préfère parler de ça plutôt que d'immoralité, qui, bien sûr, ça va avec.
Alors, l'immoralité, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé François Mauriac toute sa vie. Et François Mauriac, auteur qu'on pourrait qualifier aussi de classique, s'est intéressé très tôt, dès Bonjour Tristesse, à Françoise Sagan.
Oui, absolument. Et l'intérêt de Mauriac ne se démentit pas. Et à chaque fois qu'elle publie ou qu'elle met en scène une pièce, il en fait des commentaires dans ses carnets. Et on peut rendre grâce à Mauriac de dire « voilà un grand auteur ». Il le dit dès le début et il le dit par la suite. Il dit « je suis pas d'accord avec ça, oh, mais elle aurait quand même pu rendre son roman, ses personnages un petit peu plus moraux, ils auraient pu agir d'une manière qui aurait été plus belle ou plus religieuse. »
Oui, mais plus chrétienne en fait.
Plus chrétienne, exactement. Mais enfin, l'admiration est là.
Alors, il a quand même quelques regrets. Enfin, c'est quand même un éloge biaisé qu'il fait François Mauriac parce que les notions de bien et de mal qui lui sont chères ne sont pas présentes dans ce roman. Le bien et le mal, c'est des notions que Françoise Sagan ne connaît pas réellement.
Dans Bonjour Tristesse, peut-être, mais je crois qu'à la fin, il y a ces notions de bien et de mal. Le mal, c'est d'avoir manipulé des êtres, de ne s'être pas rendu compte que c'était des êtres véritables, des êtres humains, comme elle, Cécile, la narratrice de Bonjour Tristesse. Et finalement, il y a une moralité qui apparaît à la fin. On ne peut pas manipuler les autres pour en faire ce qu'on veut. Il y a un moment où il faut s'arrêter. Il faut arrêter son propre confort.
Le mot de morale aurait donc été prononcé plusieurs fois, moraliste. Oui. Et puis la morale, le bien et le mal, c'est quelqu'un de moral ?
C'est quelqu'un qui, je pense, qui a une moralité. Je pense que, je parle toujours de ses romans, là, je ne parle pas de sa vie. Dans les romans de Sagan, la moralité, c'est ne pas faire de mal aux autres.
Et après Bonjour Tristesse, pour en revenir à Bonjour Tristesse, ça a été bon, un coup de tonnerre, une révélation, un énorme... Ah bah si, une révélation.
Oui. Pas pour moi, je veux dire.
Ah ben, ça vous a pas étonné, là, d'être aussi insensé?
Ah si, j'étais ahurie. Mais la gloire, c'est pas un soleil rouge comme ça qui jette sur vous et qui vous éclaire. Ça se passe par une série de petits échos d'abord, et puis des gens qui vous parlent dans la rue, puis qui vous... C'est pas forcément agréable, d'ailleurs. Des gens qui vous montrent du doigt, etc. Il y a un bon côté, mais il y a un mauvais côté. Et puis, il y a eu ce prix. J'ai eu l'impression de gloire le jour où j'ai reçu ce prix des critiques, là où j'ai été, où j'ai eu des photographes partout. Là, je me dis, tiens, non, bon, c'est comme ça que ça se passe, mais...
Non. Ça vous a jamais grisé, au fond ?
Non. J'ai vite dégrisé dans ce prix, si vous voulez. J'étais à un dîner. Je vais aller à une soirée avec un jeune homme dont j'étais très, très amoureuse. On était partis en moto à Senlis. Bon. Et alors, ce prix m'est arrivé, on m'a téléphoné à des moments. J'ai lâché ma soirée. J'étais dîné avec des gens, j'étais ravie. J'étais passé toute la soirée entre deux messieurs qui me paraissaient très vieux, qui avaient 75 ans, qui me paraissaient le comte de la vieillesse, si vous voulez. Et à côté de parler de littérature, c'était pas absolument les mêmes qui m'intéressaient. Et puis après quoi, on m'a emmené chez une dame qui venait à un salon, qui avait voté pour Audi Berthy, qui détestait ma prose.
Ça existait, les salons ?
Oui, elle est morte, c'est les listes de armes. Alors, quand j'étais chez elle, on m'a entraîné assez, de manière assez perfide, et j'étais entouré de gens qui me faisaient la gueule, si vous voulez, parce qu'ils voulaient que ce soit Audi Berthy. Je lui ai dit, devant, j'étais pour rien, j'étais un peu embêté. Si chaque fois j'aurais pu avoir un petit coup de gloire, j'ai eu un petit coup de sur les doigts en même temps, donc ça calme.
Françoise Sagan ici au micro de Laure Adler en 1989 qui parle du prix des critiques reçu donc juste après Bonjour Tristesse. C'était un prix, Evalice Roustan, particulièrement prestigieux, c'était aussi un prix très sérieux.
Oui. D'ailleurs, elle était en compétition avec des auteurs masculins, beaucoup plus âgés qu'elle, qui, d'après Mauriac, auraient aussi mérité d'avoir le prix, mais enfin, c'est elle qui l'a eu.
Et notamment Audy Berthy, dont elle parle dans cette archive.
Oui.
Audy Berthy, candidat donc malheureux, qui avait défini ce que c'était qu'un style littéraire de droite. Il disait « c'est un certain ton élégant, désinvolte, volontiers bâclé ». Alors, il n'a pas eu le prix, mais peut-être qu'il avait vu juste, dans le style littéraire de droite, que serait celui de Françoise Sagan,
Ce qui est amusant dans cette définition, ce sont les conversations qu'il y a eu autour du style de droite, style de gauche, ces conversations qui sont consignées dans la revue La Parisienne, qui est la revue des hussards dans les années 50.
Revue de droite, pour le coup.
Revue de droite, voilà, une revue de droite. Est-ce qu'il y a un style littéraire de droite c'est amusant d'essayer de le comprendre, mais enfin, j'en suis pas persuadée. Bâclé, c'est vrai que c'est un mot qui colle à Sagan. Il y aurait ce serait l'élégance de l'aristocrate qui refuse de se retourner et de corriger ses brouillons. C'était pas du tout le cas de Sagan. On sait qu'elle passait beaucoup de temps à refaire ses romans. La femme fardée, elle a dit qu'elle a fait 10 débuts. Donc, peut-être qu'il faut beaucoup de travail pour arriver à cette impression de bâclé.
Mais pour vous, ça a un sens pour Françoise Sagan de poser cette question-là ou pas ?
Non, pas vraiment. Non.
Parce que quand même, derrière cette question-là, il y a tout un univers littéraire qui est, au sortir de la guerre, une opposition quand même entre des écrivains qu'on a appelés les hussards, que Bernard Franck d'ailleurs a dénommé les hussards, et puis la littérature dite de gauche.
Oui, tout cet univers est passionnant, mais Sagan l'œuvre de Sagan n'y appartient pas, ni à la droite ni à la gauche. Et d'ailleurs, elle-même refuse. Elle-même s'est toujours dite de gauche, mais elle a toujours dit la littérature n'est ni de droite ni de gauche. La littérature, c'est la littérature.
Donc ce n'est pas un hussard au féminin ?
Absolument pas, non.
Alors, droite, gauche, effectivement, elle avait plutôt un comportement de droite, mais une manière de réfléchir qui était plutôt de gauche. En 1961, elle a signé le manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie.
Oui. Et la maison, l'appartement de ses parents a été plastifié en représailles.
Oui, ce qui n'est pas rien.
Non.
Et en 68, elle va voir ce qui se passe dans le quartier latin. Elle se trouve à l'Odéon, il y a un meeting, et puis il y a un étudiant qui lui demande « Mes camarades Sagan, vous êtes venus en Ferrari pour encourager la révolution ?» Et vous vous souvenez ce qu'elle lui répond ?
Oui, elle lui répond « Non, c'est une Lamborghini. » Ou une Maserati.
Une
Maserati, oui.
They say into your alley and in this heart of yours burned a flame that flickered one day and died away. Then with disillusion deep in your you learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now.
Vous écoutez toujours La Compagnie des auteurs sur France Culture. Il faut dire, Evalice Roustan, que dans la période où se situe Sagan, la période de l'après-guerre, il faut choisir son camp par rapport à la guerre. Et Sagan ne va pas tellement parler, au moins jusque dans les années 80, de ces quatre années que la France et l'Europe ont traversées.
Oui, elle parle de la guerre dans ses souvenirs d'enfance et ses souvenirs d'enfance sont plutôt heureux. Ils sont liés à sa vie de famille, ils ne sont pas liés à la guerre. Alors, puisqu'on parlait de morale, c'est un thème aujourd'hui, elle se rend compte, elle dit à la fin de la guerre, sa mère et elle sont confrontées aux femmes qui ont été rasées parce qu'elles ont collaboré avec les Allemands. Et sa mère est en colère, elle dit c'est pas possible de les traiter comme ça, vous êtes comme les Allemands. Et là, elle se dit, elle se dit pas il y a le bien et le mal, elle se dit ah c'est plus compliqué que ça, c'est pas forcément les Allemands le bien, le mal et les Français le bien, il y a quelque chose de plus compliqué. Donc est-ce que la guerre influence son œuvre? Je n'en ai pas trouvé la trace. Elle écrit des œuvres sur la guerre, mais je veux dire, est-ce que le traumatisme qu'elle dit qu'elle a avoir subi en voyant les images de la Shoah influence son écriture dans les romans dans lesquels elle parle de la guerre? Je n'en suis pas persuadée.
Alors, il y a quand même trois romans.
Il y a trois romans, oui, tout à fait. Donc il y a Deux guerres lasses, Un sang d'aquarelle et Les faux fuyants, oui, qui sont trois bons romans, surtout Les faux fuyants. Je voudrais le dire, puisque hier, vous avez dit que les derniers romans n'étaient pas très bons. Et moi, je trouve que Les faux fuyants, c'est un de ses meilleurs romans. C'est drôle, c'est loufoque, c'est fin, c'est profond. Je le conseille vivement à la lecture.
Alors justement, le fait que ce soit loufoque et que ça parle de la guerre, c'est étonnant.
Dans Les faux fuyants, la guerre, c'est juste le fond, le décor, le prétexte à prendre quatre Parisiens mondains et à les poser dans une ferme bosseronne et à voir comment ils réagissent là.
C'est ça. Ça se passe pendant la débâcle. Et donc, ces quatre bourgeois sont hébergés par une fermière, c'est
voilà,
ça?
Voilà, ils sont obligés de travailler et de faire les vendanges.
Chose qu'ils trouvent évidemment très difficile.
Très difficile et finalement, non, pas si difficile. Finalement, il y en a qui viennent à se dire « Ah, mais c'est pas mal le travail manuel. » Finalement, c'est comme ça que pendant quelques jours, ces quatre personnages trouvent la sérénité, une certaine adéquation avec eux-mêmes. Dans cette ferme où ils doivent travailler de leurs mains, ils trouvent une certaine forme de bonheur.
Donc, on est au départ dans la comédie, dans ce roman, et progressivement, on va quand même tomber dans la tragédie.
La tragédie, c'est les dernières pages, comme s'il fallait mettre fin au roman, et on bâcle ça pour le coup.
Ah, vous trouvez que c'est bâclé? Parce que c'est très brutal, vous pouvez quand même raconter cette
fin. Non, je trouve pas que ce soit bâclé, mais c'est brutal, effectivement. Eh bien, au bout de quatre jours, la fermière trouve que ça va bien comme ça, de nourrir ces quatre Parisiens, mais les vendanges sont finies, les moissons sont finies, donc il faut les faire partir. Et elle leur fait croire que les Français ont gagné la guerre, et donc ils peuvent regagner Paris. Et ils trouvent une voiture à louer, et ils s'embarquent tous les quatre. Et quand ils croisent des Allemands, une des femmes sort un drapeau français et se met à crier. Et à ce moment-là, la voiture est mitraillée et ils meurent tous les quatre. Et ça se passe en quelques paragraphes.
Mais ça n'est pas uniquement loufoque, c'est aussi l'impossibilité un peu tragique de la vraie rencontre entre deux milieux sociaux à un moment tragique de l'histoire quand même. Donc il y a quelque chose quand même...
Il y a quelque chose de tragique.
Ça n'est pas qu'une fin quand même à un roman. Ça doit bien faire écho à quelque chose chez Françoise Sagan d'assez profond.
Je pense qu'il y a une rencontre vraiment entre ces deux milieux. Simplement, comme les histoires d'amour chez Sagan, elles ne durent pas, elles ne peuvent pas durer.
Alors, elle a du mal à se sentir de manière générale concernée par la guerre, mais peut-être plus largement, on l'a dit, concernée par la politique. Elle fait des tentatives, mais qui ne sont pas très très abouties. Est-ce qu'il y a un rapport avec cette idée de se sentir concernée, pour vous, Eve Alice Roustan, chez Françoise Sagan?
Mais dans ses essais, dans ses interviews, elle dit qu'elle est très concernée. Donc pourquoi ne pas la croire? Simplement, pour elle, la littérature, ce n'est pas ça. Les romans, ce n'est pas quelque chose... Il n'y a pas d'engagement politique dans la littérature. On ne peut pas changer le monde avec la littérature. C'est ce qu'elle dit elle-même.
Alors Véronique Olmy, qui est autour de cette table et que nous allons faire parler davantage dans la seconde partie de cette émission, et vous êtes vous-même quelqu'un qui avait lu Sagan, qu'est-ce que vous ressentez de cette idée de l'engagement ou au contraire du détachement chez Françoise Sagan?
Mais ça dépend de quel engagement on parle. Je pense pas que ce soit quelqu'un de banderole et de slogan, c'est quelqu'un qui, comme elle le dit, comme un artisan, à essayer de fouiller l'âme humaine. C'est un travail bien plus difficile et délicat. C'est un engagement humain. Essayer de comprendre ce qui se tisse entre les êtres, C'est ce qui appartient au romancier. Après, les engagements par rapport à la guerre, je pense que le romancier, c'est celui qui parle des retentissements plutôt que de l'histoire au moment de se faire.
Et là, en l'occurrence, on parle de l'âme humaine quand on parle de la guerre. On parle donc des relations entre les gens, car c'est ça qui intéresse profondément Françoise Sagan.
Mais je crois que ça, c'est ce qu'elle s'est appliquée à faire tout au long de sa vie. Et je pense que c'est aussi une certaine humilité que de parler de là où on est. Et elle n'a pas écrit « Guerre et paix », mais elle a écrit finalement la guerre au sein du couple, ou de la famille, plutôt du couple. Et je trouve que c'est le même décryptage.
Alors, Eve-Alice Roustan, Sagan, c'est un écrivain libre, un écrivain en dehors des chapelles, qui n'appartient à aucun courant. Et pourtant, c'est un romancier qui va vivre la période de l'émergence du nouveau roman. Et vous, vous avez trouvé des liens entre certains acteurs du nouveau roman et Françoise Sagan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça ?
Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de liens entre le nouveau roman et Sagan. C'est plutôt amusant de voir qu'elle continue dans une veine classique à mesure que le nouveau roman pose des diktats modernes, ce qu'on sait du nouveau roman. Chez Sagan, il y a des personnages qui ont un nom, un prénom, une profession qui n'est pas forcément très importante. Et ces romans ont un début, un milieu, une fin. On comprend très bien ce qui se passe au sens propre tout de suite.
Mais en 1957, par exemple, c'est le moment où Rob Grillet publie La Jalousie, c'est le moment où Claude Simon publie Le Vent, et entre Rob Grillet et Sagan, il y a peut-être quand même, justement, dans cette absence d'engagement, quelque chose de commun, dans cette absence voilà, d'engagement, tout simplement.
Alors, oui, chez Rob Grillet, l'engagement est littéraire. Il y a une volonté de créer un nouveau mouvement littéraire. Et à ce moment-là, on peut voir que Sagan, elle, même ça, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Elle écrit des romans. Elle continue à écrire des romans. En 57, il y a eu Un certain sourire et Aimez-vous Brahms. Des romans qui restent tout à fait classiques.
Parce que Sagan, elle ne croit pas à la révolution, elle ne croit pas que la littérature va changer le monde.
Non. Non, elle le dit de cette manière.
Véronique Olmy, est-ce que vous, entre le nouveau roman et Françoise Sagan, vous voyez soit des différences, soit des points communs, même si a priori, comme ça, on aurait beaucoup de peine à les rapprocher ?
Moi, je crois que chacun doit mener sa vie en essayant d'être ce qu'il est. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a jamais dévié de ça. Ça, c'est difficile, de pas se laisser emporter par des courants de recherche ou de mode, et de creuser son sillon, parce que finalement, c'est louable de rester debout tel que l'on est. Et donc, c'est vrai que c'est vrai que, par exemple, le théâtre de Sarraute restera peut-être plus que le théâtre de Sagan. Mais je trouve ça très beau, une auteure qui reste debout elle-même.
Alors, du théâtre de Sagan, on en parlera un peu plus précisément, justement, avec vous, notamment Véronique Olmy, dans la seconde partie de cette émission. Mais à présent, voilà le moment de retrouver, comme chaque jour, en compagnie des revues. Et pour ce faire, j'accueille aujourd'hui Julien Bisson de la revue Lire. Bonjour Julien.
Bonjour Mathieu.
La revue Lire en kiosque en ce moment qui affiche une sur le lien entre les écrivains et les animaux. C'est Michel Houellebecq que vous avez mis en une avec son chien. Ils sont en train de jouer à la balle.
Oui, pour un numéro Mathieu qui n'a toutefois rien de bébête. Car à l'heure où les scandales s'accumulent dans les abattoirs français et où tenants et adversaires de l'antispécisme multiplient les noms d'oiseaux, il était temps de prendre un peu de recul pour évoquer la question animale et d'aller visiter, pourquoi pas, la planète des sages. C'est ce que nous vous proposons de faire dans ce dossier de 28 pages qui revient sur le lien singulier qui unit les écrivains et les animaux, de Homère à Houellebecq, de La Fontaine à Dariussecq. Car comme le rappelle Michel Pastoureau que nous avons interrogé pour ce dossier, les animaux ont été les premiers dieux et on a investi dans l'animal tant de symboles, de métaphores, de croyances, de superstitions qu'il a fini par devenir une figure littéraire.
Figure littéraire mais aussi compagnon d'écrivain comme vous le présentez, Julien, dans un grand portfolio.
Oui, car l'animal c'est souvent le compagnon silencieux des prosateurs, c'est l'ami fidèle des solitaires. On pense à Hugo et Chanoine, Dumas et Missouf, Céline et Bébert, Houellebecq et Clément.
Ah bah voilà, ce sont donc ceux-là qui sont sur la une.
Et voilà, et Houellebecq et Clément, autant de duos littéraires rentrés dans la postérité. Mais aussi Sagan, évidemment, qui a accueilli toutes sortes d'animaux dans sa ferme normande, Colette, Modiano, Gary, Léoto ou encore Elroy, tous amis des bêtes au point de les célébrer régulièrement dans leur œuvre. Sans oublier Jean Cocteau, qui préférait, disait-il, les félins aux chiens parce que il n'y a pas de chat policier. Suivre le rapport des écrivains aux animaux, c'est en réalité mettre à jour une histoire cachée de la littérature, une histoire où les bêtes à poil voyagent de concert avec les hommes de plume.
Vous penchez également dans ce dossier sur le regard que portent les philosophes sur la question animale.
Oui, car la question de l'animalité ne se résume pas à celle des compagnons domestiques. Elle relève plus généralement d'une interrogation philosophique cruciale. S'interroger sur l'animalité, c'est en creux se questionner sur l'humanité. Les philosophes ont bien compris qu'ils voient comme Aristote des qualités identiques aux hommes et aux animaux, ou qu'ils réduisent comme Descartes ces derniers à de simples machines dépourvues de toute âme. Descartes qui, cela dit, possédait pourtant un chien baptisé Monsieur Gras. Alors que paraît ce mot en librairie un Montaigne et les animaux, il n'est donc pas inutile de rejoindre dans sa vigie l'auteur des essais pour qui, disait-il, il y a plus de différence de tel homme à tel homme qu'il n'y a de tel homme à telle bête, et qui appelle en retour à des obligations mutuelles.
Voilà ce qui pose la question de savoir s'il faut traiter les animaux à l'égal des hommes.
Ah, cette question, on nous l'a posée à Boris Cyrulnik, par exemple, dont les travaux sur le comportement animal ne sont plus à présenter, ainsi qu'à Mathieu Ricard. Ensemble, ils esquissent des pistes de réflexion pour penser un monde où pourraient exister, coexister les animaux et les hommes, pour la protection et le bien-être des premiers, bien sûr, mais aussi pour la santé physique et morale des seconds. Au-delà de la question même du spécisme ou des pratiques alimentaires, il nous rappelle ainsi avec force cette vérité simple. La façon dont l'on traite les animaux nous en dit beaucoup, beaucoup sur la façon dont on est prêt à traiter les humains.
Vous avez des animaux dans vos romans, Véronique Olmy?
De temps en temps, mais en fait, je les ai surtout, j'ai mes chats toujours avec moi et j'ai des grandes expériences mystiques avec les chats, parce que la ronron-thérapie, faut pas se moquer, ça existe, ça m'a sauvée deux fois.
Ah bon, racontez-nous ça.
J'ai deux fois où j'étais mal et mon chat était avec moi et il ronronnait, il était contre moi et ça, il a réellement pris toutes mes angoisses et c'était comme si je sortais moi-même de mon corps et c'était un état de délivrance et de bien-être qui est arrivé deux fois dans ma vie et je crois que certains animaux s'humanisent et je pense qu'on peut retrouver, comme disait Léo Ferré, les âmes de nos chiens et de nos chats.
Mais vous savez que maintenant, dans les universités, dans les écoles, dans les entreprises, on amène des petits chiots pour que les gens puissent les caresser et ça les déstresse avant les concours, ça les déstresse...
Mais oui, c'est juste, moi j'ai amené mon chat dans la maison de retraite où était mon grand-père et ça lui faisait un bien immense.
Évariste Roustan, les animaux chez Sagan?
Pour Sagan elle-même, c'était important. Je me souviens d'une archive de Lina où elle dit qu'elle a perdu son chien ou son chat, je ne sais plus. Et elle profite en quelque sorte de sa notoriété pour espérer le retrouver. Dans ses romans, il y a Le chien couchant, qui est un roman qui est un peu moins connu, un peu déstabilisant pour le lecteur habituel de Sagan.
Pourquoi ?
Parce qu'il se passe dans la banlieue de Lille, entre une femme qui n'est pas belle. Et c'est une histoire entre une femme de plus de 50 ans et un jeune homme de 25 ans. Une histoire d'amour, mais enfin qui change de cadre. Et il y a un chien, et le chien devient un élément de communication entre les deux personnages.
Et sur ce rapport avec Colette, parce qu'on parle toujours de Sagan et Colette, or Colette, c'est vraiment les animaux.
Oui, c'est vrai, et c'est peut-être... autant l'engagement politique est important dans la vie de Sagan, autant il n'apparaît pas dans son œuvre. Et c'est peut-être la même chose avec les animaux, autant ils ont eu de l'importance dans sa vie personnelle, mais dans son œuvre, pour ça, on ne peut pas la comparer à Colette.
Alors, pour en savoir plus sur les animaux, il faut acheter le magazine Lire qui est en kiosque jusque quand ?
Jusqu'au 30 juin.
Jusqu'au 30 juin. Merci Julien Bisson.
Depuis qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse. Bonjour, tristesse, ami qui me ressemble, tu es le seul miroir où je peux contempler ma jeunesse. Bonjour, tristesse, tu sais le secret de ma peine, car c'est toi qui l'as bercé. Et s'il faut que je me souvienne, tu viens poser ta main sur la mienne. Te quitter ma tristesse.
Vous écoutez toujours la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Françoise Sagan jusqu'à jeudi et aujourd'hui en particulier avec Ève-Alice Roustan et Véronique Olmy.
Il y a une chose intéressante dans vos romans, Françoise Sagan, c'est les titres. On a dit souvent, vous avez le génie des titres.
Il veut peut-être mieux que j'ai lu des romans, et puis moi je lis des titres.
C'est vrai, les 9 romans ont tous un bon titre. Et même les gens qui quelquefois font des réserves sur ce que vous faites, ont toujours dit un bon titre. Enfin, ont toujours fait... Alors ce titre, comment il arrive ?
Oh, c'est le goût des mots, ça, c'est le goût de... Par exemple, si vous voulez, quand je cherche un titre pour un livre, je le trouve ou dans mon texte même, comme le dernier, ou alors je le trouve ailleurs, mais... Je m'amuse bien avant de le donner à l'éditeur. Je fais ma petite maquette. Je mets voir si c'est joli à voir à l'œil. Comment ça sonne, quel est le son. Des fois, je m'amuse à le traduire en anglais pour voir, pour m'amuser, en allemand.
C'est pas du marketing.
Absolument pas, non. C'est du tout plaisanté. C'est pour la beauté de la chose, quoi.
Vous avez levé les yeux, Véronique Olmy, je vous ai vu à l'énoncé de la question d'André Halimi à l'adresse de Françoise Sagan sur le génie des titres. Alors, est-ce que c'était lever les yeux de manière admirative ou est-ce que vous trouvez que c'était une banalité cette
question ? Non, c'est-à-dire que moi, il n'y a pas une fois où, quand j'ai cherché un titre de mes romans où je n'ai pas pensé à elle, à chaque fois, je me dis, elle serait elle. C'est le génie du titre parce que ces titres sont simples. Mais c'est ce qu'elle disait. Elle disait, un écrivain, il emploie des mots simples pour dire des choses complexes. Et le lit des faits, par exemple. Mais mille fois, je me dis, ah, ça serait bien. Ah, mais non, c'est bête. En fait, on est tellement imprégné des titres de Sagan, ce que chante très bien Souchon, d'ailleurs, qu'on les a en mémoire, en stock presque, et on serait prêt à la plagier sans le savoir. Quoi. Ils sont à la fois évidents, poétiques, c'est d'une poésie incroyable.
Qu'est-ce qui est poétique dans le lit des faits ? Parce qu'aujourd'hui, ça paraît un peu démodé comme titre, pardonnez-moi, parce qu'aujourd'hui, tous les lits sont des faits, de toute façon, on a tous des couettes. Mais qu'est-ce qui vous...
Bah parce qu'on sait pourquoi il est des faits. Le lit des faits, c'est il y a à la fois la défaite, c'est-à-dire la reddition des amants, Et il y a à la fois le désordre, et tout est dit, le lit des faits.
C'est après la bataille alors qu'on arrive.
C'est après la bataille, et c'est peut-être au moment où on se bat, où on se rend, où alors on est rendu, c'est fini, on ne sait pas, il faut ouvrir le livre.
Quels sont les autres titres que vous aimez? Un peu de soleil dans l'eau froide.
Mais ça, mais quelle merveille! Le cheval évanoui.
Qu'est-ce que vous voyez dans le cheval évanoui?
Un sourire. Mais justement, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est l'alliance des deux mots. Mais c'est ça souvent chez Sagan. Quand elle parle, par exemple, d'un ciel ou d'une ambiance, elle allie des mots qui sont qu'on n'allie pas habituellement, qui sont, ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont humains. Un cheval évanoui. Et pourtant, voilà, c'est je pense qu'il y a aussi le mystère de la poésie, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout comprendre. Le cheval évanoui, je ne comprends pas ce que c'est quand je vois ce titre. Mais on n'est pas obligé de tout comprendre, parce que le livre, surtout chez Sagan, ça s'adresse aussi à l'oreille.
Les merveilleux nuages, ça c'est un titre qui est presque un peu trop facile.
Eh bien, c'est ce qui paraît facile qui est compliqué, je trouve, parce qu'il faut l'oser.
Alors vous, vous aimez Françoise Sagan? Et pourtant, votre littérature ne ressemble pas tellement à la littérature de Françoise Sagan, elle qui a un style classique, une langue, on en parlait avec Eve-Alice Roustan, dont le modèle est peut-être le 17e, le 18e, avec des phrases gigognes, des phrases à rallonge. Et vous, votre écriture est davantage moderne, votre style est un style oral, parlé, qui serait finalement plus proche du style de Céline que du style de Mauriac, pour reparler de l'auteur du charmant petit monstre, enfin de la formule de charmant petit monstre.
Alors déjà, jolie référence, mais Céline, on m'a souvent parlé de Céline à propos de Bord de mer. Bon, je n'ai pas le génie de Céline, mais après, les livres sont peut-être une facture plus classique que Bord de mer. Mais en fait, l'admiration pour un auteur, ça se situe ailleurs. Moi, par exemple, j'ai une admiration sans bornes pour Dostoïevski, qui n'écrivait pas du tout comme Sagan, qui elle-même admirait l'auteur russe. Je crois que l'admiration, c'est dans ce qu'on peut... C'est la gratitude, en fait. C'est ce que l'auteur nous donne. C'est pas ce qu'on a envie d'imiter, c'est ce que l'auteur nous nourrit. Et c'est pas pour ça qu'on a envie de recracher la même nourriture. C'est juste que c'est comme un soleil, une lumière qui est devant nous, et on se dit, voilà, c'est beau de savoir qu'on est en compagnie. Ben je suis bête, c'est le titre de votre émission.
C'est très sagagnant, ça.
Eve-Alice Roustan.
Sagan est en compagnie des auteurs qu'elle a lus. Vous êtes en compagnie de Sagan et de Dostoïevski.
Oui, c'est ça. Et David Grossman dit que chaque matin, quand il commence à écrire, il pense à tous les auteurs qui font comme lui. Je trouve ça très beau, parce qu'il ne se place pas dans la concurrence ni dans la comparaison. Il se place justement, voilà, dans cette communauté de travail si laborieux et solitaire. Et finalement, on est relié par... cet exercice, cette concentration-là.
Il n'y a pas de poésie à proprement parler chez Sagan, Eve-Alice Roustan, et pourtant c'est ce qu'elle plaçait le plus haut.
Mais vous parliez des titres, tous les titres que vous avez cités sont extraits de poèmes, donc il y a cette manière d'infuser...
Et notamment Bonjour Tristesse.
Bonjour Tristesse, aussi Le Lit des Fées et Un peu de soleil dans l'eau froide, c'est aussi des poèmes d'Éluard. Et Les Merveilles Nuages, c'est Baudelaire. Pour Bonjour Tristesse et pour Les Merveilles Nuages, elle place le poème en exergue. Donc mais la poésie, c'est, comme disait Véronique Olmy, une manière de décrire un paysage de manière simple et aussi surprenante. La plage qui est jaune, les rochers qui sont rouges et le ciel qui est bleu. Et évidemment, ça semble idiot quand je le dis, mais dans Un certain sourire, c'est beau et c'est émouvant.
La peinture est là aussi, l'image picturale.
Absolument, dans sa manière de décrire les paysages et aussi dans la référence qu'elle fait de temps en temps à des peintres pour expliquer tel ou tel paysage.
Et alors quand Véronique Olmy parle de Dostoïevski, est-ce que Sagan regardait les Russes, les grands Russes?
J'imagine qu'elle les a lus puisqu'elle a tout lu. J'avoue que je n'ai pas pensé beaucoup à Dostoïevski en écrivant mon livre.
Vous avez plus pensé à Stendhal, vous?
Oui.
Pourquoi?
Stendhal et Balzac.
Alors Stendhal d'abord, dites-nous un peu pourquoi.
Stendhal est cité en particulier dans Un mois, dans un an. Un personnage qui a trop lu Stendhal, et alors qu'il devrait plutôt utiliser Balzac. Mais Stendhal, c'est le héros qui est noble, le héros qui ne peut pas faire de mal à un autre, alors que même que ça l'avancerait. Et ça, c'est la philosophie des romans de Sagan.
Et Balzac, alors, c'est le retour des personnages?
Le retour des personnages et aussi peut-être la satire sociale. Quand il y a satire sociale, on pense à Balzac.
Cette prairie est gelée.
Oh.
Si je n'avais pas ma fidèle compagne qui m'a enlevé il y a bien longtemps le foie, les bronches et la tête, je m'assiérais sur les genoux de Sylviane.
Faudrait que je vous le permette.
Vous n'avez jamais vu un soudard ivre à l'assaut d'un pliant, ça se voit. J'aurais vite fait de vous culbuter, pardieu.
Non, arrête, Louis. Et cesse de boire, je t'en prie.
C'est vrai, mon cher Louis, il n'est que midi et demi.
Et alors, j'ai soif. Je n'ai pas à faire le brillant quadragénaire, moi, dans un lit le soir. Je peux boire dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Je vis seul.
Je vois mal, en effet, quelle femme accepterait de supporter ça.
Dis donc, toi, historien à la flanc, qui te fait parler si haut? La fidélité de ta femme légitime? J'ai eu de vraies femmes, moi, mais elles ne dépassaient jamais 43 degrés.
Un extrait d'Un piano dans l'herbe, dans une mise en scène d'André Barsac en 1970. Comme Sagan, Véronique Olmy, vous avez écrit pour le théâtre. À qui est-ce que vous la compareriez dans ce domaine?
Sagan, je crois qu'elle était entre les classiques et le boulevard. Je crois qu'elle était plutôt du côté de Guitry, de Jules Renard, que des dramaturges de son époque. Parce qu'elle, moi, j'aime beaucoup Roussin. Il y a eu dernièrement une très belle mise en scène de Michel Faux. Et Roussin était très, très acerbe, très aigu, très, très actuel dans ses rapports, la description de ses rapports conjugaux. Mais je ne pense pas qu'elle aurait aimé, à son époque, être comparée à Roussin. Et je préfère lire... son théâtre dans ses romans, c'est-à-dire les mises en scène ou dans le lit des faits, la description du milieu d'une actrice qui rentre en scène. On sent l'immense tendresse qu'elle avait pour les acteurs et son théâtre me semble un peu décalé dans le temps par rapport à, comme on disait tout à l'heure, à Nathalie Sarraute ou à Marguerite Duras si on situe deux romancières dramaturges contemporaines de Sagan.
Et c'est peut-être un théâtre effectivement qui ressemblerait plus pour le coup au théâtre de Mauriac, même si le théâtre de Sagan est beaucoup plus effectivement boulevardier, Évaliste Roustan.
Oui, boulevardier, et aussi on frôle la tragédie, justement dans Un piano dans l'herbe, il y a un suicide à la fin qui, heureusement, un autre personnage arrive à temps. On est toujours dans le théâtre comme dans les romans, la possibilité de la mort et la possibilité de l'amour.
Alors dans le lit des faits dont vous parlez, Véronique Olmy, il y a une mise en abîme du théâtre dans le roman et elle se moque des gens qui, comme le personnage de Kurt, font du théâtre engagé. Alors ça c'est vraiment quelque chose qu'elle n'aime pas beaucoup, le théâtre engagé, Françoise Sagan.
Oui, c'est étrange parce que en fait, elle attaque beaucoup les silences dans ce livre quand elle attaque le théâtre engagé, les auteurs engagés, les metteurs en scène engagés. Elle est très virulente, elle les traite de fascistes, d'action française pour le public qui aime ça. Enfin, elle est violente et elle dit, elle attaque le metteur en scène qui dit « moi ce que j'aime c'est ce qu'il y a entre les répliques » et elle dit « moi ce que j'aime c'est les répliques ». Et je pense que ce qui manque un peu à son théâtre pour perdurer peut-être, au-delà des dialogues brillantissime, des situations en abîme, tous les codes du théâtre avec lesquels elle joue très bien, c'est peut-être ses silences. Et vous parliez des thèmes de l'amour et de la mort, et c'est vrai que son théâtre parle de l'amour et de la mort, et Duras c'est la même chose, c'est l'amour et la mort, et c'est traité avec des silences. Et c'est vrai que dans Le lit des faits, elle attaque ça de façon violente. Elle dit que le théâtre engagé donne au peuple ce qu'il ne faut pas lui donner, que le théâtre c'est bourgeois par excellence et qu'il faudrait que le peuple soit délassé le soir avec du fait d'eau.
C'est ça qu'on lui reproche un petit peu.
C'est Elle dit qu'il ne faut pas lui donner du pirandello. Alors forcément, moi, je pense l'inverse. Je pense que les gens qui ne sont pas dans la bourgeoisie ont les mêmes aspirations et ont droit à la même aspiration par le haut. Et c'est marrant parce que, enfin, vous disiez qu'elle travaillait avec Barsac, ça a été son metteur en scène, mais lui, Barsac, en 37 déjà, dès après le Front Populaire, il faisait du théâtre pour ce qu'on appelle le peuple. C'est-à-dire, il jouait Molière devant les cheminots, en province. C'était un homme très engagé. Et je trouve qu'elle est très virulente et forcément un peu injuste. Quand on est virulent, on est injuste.
L'amour, vous venez d'en parler, Véronique Olmy, c'est un thème de Françoise Sagan, c'est aussi ça qui vous rapproche d'elle, c'est-à-dire que c'est un thème de vos romans aussi, mais c'est peut-être pas le même amour chez Olmy et chez Sagan.
Moi, on me dit toujours que je parle du couple, mais je parle du couple aussi dans la relation filiale. J'ai beaucoup écrit sur les mères et les fils, les mères et les filles. Ce que j'aime beaucoup chez Sagan, là où ça me comble de la lire et ça me rend timide parfois, parce que je me dis, voilà, c'est comment elle décrypte ces liens impossibles et en même temps, c'est des vœux toujours renouvelés, les vœux d'amour. On sait que c'est une guerre perdue d'avance, mais on sait que si on ne joue pas ce combat-là, ça va être l'ennui et il faut mieux mourir un peu d'amour que mourir longuement d'ennui. Et ce que j'aime chez elle, c'est la façon dont... Voilà, on parlait du théâtre. Et en fait, les dialogues de Sagan sont brillants, mais moi, ce que j'aime dans ces livres, c'est ce qu'il y a entre les dialogues. Comment une personne va proférer une parole, comment l'autre la reçoit. Ces dialogues sont pas du tout tirés. C'est-à-dire, ils sont entrecoupés de nombreuses pensées, de nombreux retentissements. Et c'est ça.
C'est pour ça que c'est pas si simple de monter du Sagan, justement.
Oui, c'est pas si simple parce que l'extrait qu'on écoutait tout à l'heure, c'est vrai que c'est des anciennes voix, c'est des anciennes façons de parler. Je pense que si on la disait, comme on arrive à dire aujourd'hui du Tennessee Williams, qui était son ami et un dramaturge qu'elle admirait beaucoup, je pense, ou comme on dit encore aujourd'hui Roussin, justement, je pense qu'on pourrait l'actualiser.
Alors, il y a quand même un de vos romans qui me fait penser, moi, à une intrigue de Sagan. Vous allez me dire si ça vous semble juste ou pas du tout. C'est Le Premier Amour que vous avez publié chez Grasset en 2009. C'est un roman dans lequel une femme prend la fuite le soir de ses 25 ans de mariage. Elle prend la fuite pour aller retrouver son premier amour à Gênes. Et cela à cause d'une bouteille de pommard que son mari, Marc, a ramenée de Bourgogne quelques jours auparavant et qu'il avait enveloppée dans les pages annonces de Libération. Et c'est là que la narratrice a découvert une annonce qui lui était adressée. Je cite « Émilie, ex-1976, rejoins-moi au plus vite à Gênes, signé Dario ». Est-ce que ça, c'est quand même une intrigue qu'elle aurait aimée, sans doute, Françoise Sagan?
J'aimerais bien qu'elle ait aimé. Ex, c'est AIX, hein, c'est la ville. Hein, c'est
oui.
Pas, on pourrait penser que
c'est
un ex.
Oui,
non, mais...
Mais
en fait, oui, ce livre, l'héroïne, dès le début du livre... est en train de faire une mise en scène puisqu'elle prépare l'anniversaire de mariage, son anniversaire de mariage. Et je voulais que cette héroïne-là parte dans une condition où on ne doit pas partir. On ne prépare pas un anniversaire de mariage en quittant son mari le soir même. C'était pour montrer, bien sûr, elle ne le quitte pas lui, elle va faire quelqu'un d'autre, ce qui est différent. Et c'était pour montrer la nécessité, l'impériosité, et le fait que rien n'aurait pu l'empêcher de rejoindre cet homme 40 ans après. Ce qui m'intéressait, c'est qu'elle ose. Elle ose se montrer mûre à un homme qu'elle avait aimé à 16 ans. Et donc, c'est aussi une histoire sur le temps.
Il y a quelque chose de saganesque, Eva-Lise Roustan? Mais
le temps, bien entendu. Enfin, en général, les romans de Sagan ne durent pas très longtemps. Donc, cette intrigue-là ne se trouve pas. Mais ce sont des amours qui sont inscrits dans le temps. Et Sagan en montre l'éphémère.
Peut-être pour conclure, Eva-Lise Roustan, est-ce que vous diriez que l'écriture de Sagan, c'est une écriture d'abord liée au plaisir ?
Oui, il y a le plaisir d'écrire, le plaisir de raconter, le plaisir de faire venir des lectures dans son monde à elle, dans le monde de la littérature française et de l'ouvrir pour ses lecteurs.
Eh bien, merci beaucoup Eva-Lise Roustan, Véronique Olmy. Tout de suite sur France Culture, la poésie, Jacques Bonnafé.
Holy, holy, holy.
Jacques Bonafé qui vous propose d'entendre jusqu'à jeudi des textes du regretté Christophe Tarkos, mort du cancer en 2004 à seulement 41 ans, dans un épisode intitulé aujourd'hui « À la poésie directe ».
Bonjour, cette semaine nous piochons dans les écrits poétiques de Christophe Tarkos parus chez POL avec une préface de Christian Prigent. Nombre de ses poèmes sont issus de performances produites entre 1990 et 2004. Ça ne peut plus durer comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'utilisation faite du mot poésie, dans l'utilisation qui est faite du mot « ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose ». On se retrouve dans n'importe quoi, la divagation, on ne sait plus où on met les pieds, il y a tout et rien, personne ne sait plus ce qu'il fait. Ça ne veut plus rien dire, la pensée créatrice, la beauté verbale sont réduites à des frivolités municipales, à des claquements de mains, s'engluent dans la bande sonore du championnat américain de basket, dans le chuchotement de phonèmes murmurés. Ça tourne, ça peut tourner longtemps, occupe le terrain, lissé, bruisse, chauffe. C'est chou, chouchou, un chou, deux choux, trois choux, chou ou chou, X ou gros chou, mon petit chou, mon grand chou, grand-maman chouchou, chouchoune, ouche, 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 ou, ch, ou psh, chu, ut, chou, i, chou, 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 C-H-O-U, ou le grand chou, le C, virgule, H, virgule, O, virgule, U, virgule, X. Agrichou. Ouh. Il était une fois une fille chou qui était très chou, suçait les feuilles de chou, les bouts de chou, les têtes de chou, rentre dans le chou, plante tes choux et chou à ramer des choux, ou chou pour chou, ou chou et tête et cul, et chèvre et chou, mâche se rachète en chou vert, chou rouge, chou frisé, chou blanc. Le mot manifeste est très présent dans l'œuvre de Christophe Tarkos, manifeste, déclaration, doctrine, concept, affiche et slogan, qui sont des poèmes, et inversement, poèmes qui sont des manifestes, déclarations, doctrine, concept, affiche et slogan. Hop, hop, le texte est expressif, est un poème pour la lecture précédé d'un cri. Le texte est expressif. Le texte est expressif. L'expressivité du texte est bonne. Le texte expressif est un texte bon. Le texte est expressément. Le texte est expressif et intense. Le texte extirpe et intensément. Le texte est d'une grande expressivité, est un texte. L'expression du texte est bonne. Le texte est bon. L'expressivité du texte est bonne. Le texte est bon. Le texte est expressif. L'expressivité du texte est intense et vrai. Le texte est intense. Le texte est court, simple, intense. Le texte exprime. Le texte est un texte exprimant vraiment, exquisément, intensément. Exprime, expressément, intense et vrai. Exprime, fort et court, simplement. Le texte est expressif. Le texte est neuf et intéressant. Le texte n'est pas inintéressant, inexpressif, incompréhensif, le texte est expressif, simple et court, compréhensif, neuf et précis, fort, juste, frappant. L'expressivité du texte est suffisante et juste et bonne. Le texte n'est pas mauvais, expressément expressif, il s'extirpe, il exprime. Les paroles du texte sont simples et expressives. Le texte est intensément et surprenant, il est expressif, il est bon. Le texte n'est pas inintéressant, il exprime, il est expressif, il est étonnant, il est vrai, il est compréhensif. Le texte intense impressionne et fort, précis, long et neuf, étonnant, juste, frappant. Le texte d'expression s'exprime ample, le texte est long et bon, est expressément, est expressif, est expressivement, est vrai, long, ample, simple, et fin, et bon, et fort, et court. Il n'est pas incompréhensif.
Du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Voilà Jacques Bonafé qui interprétait des textes extraits des œuvres poétiques de Christophe Tarkos, édité chez POL en point d'orgue à ce deuxième numéro de la Compagnie des auteurs consacré jusqu'à jeudi à Françoise Sagan. Merci à Évalice Roustan dont je rappelle le livre Sagan, la générosité du regard. Il est paru le 11 mai dernier chez Classique Garnier. Merci également à Véronique Holmy. Votre dernier roman, Un autre que moi, a paru le 13 janvier dernier. C'est aux éditions Albin Michel. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast ou directement sur le site internet de France Culture. C'est le cas également de toutes nos émissions depuis le début de la Compagnie des auteurs. Demain, Sagan, la suite, nous parlerons de nouveau littérature avec Céline Ramadova, pardonnez-moi, auteure d'une thèse intitulée Les romans de Françoise Sagan, sincérité et faux semblant. Cette émission était réalisée par David Jakubowicz. À la console, il y avait Pierrick Monsigny. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Sophie de Lombarès, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu.